Ainsi le baptême opère-t-il dans l'âme une création nouvelle. Cette création nouvelle est celle de la grâce, qui est participation à la vie de la Trinité. Mais cette vie nouvelle fait, par là même, que nous entrons dans une union très intime, mystérieuse et vivante avec Dieu, selon les mots de Scheeben. Le mystère de la grâce est le mystère de cette vie d'intimité avec Dieu. La surélévation de notre nature n'a pour but que de nous donner d'entrer dans la familiarité du Père, dans la société du Fils, dans la communication de l'Esprit. C'est de ce mystère que nous parlerons maintenant. C'est le mystère de l'adoption divine. Je cite « La loi a été notre pédagogue, mais vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Or, je dis ceci, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit maître de tout. De même aussi, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, formé d'une femme, né sous la loi, pour affranchir ceux qui sont sous la loi, afin de nous conférer l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, tu es fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. » Fin de citation, Galates 3, 24. L'adoption divine nous fait d'abord enfants du Père. Elle transforme les rapports du chrétien avec Dieu qui sont désormais des rapports de fils avec son Père, et non plus d'esclave avec son Maître. Le premier effet qui en résulte est la liberté de parole, la parésia, selon le mot des Pères. La parésia est le privilège du citoyen libre, fondé sur l'égalité avec les autres citoyens, sur le caractère souverain du citoyen dans la cité démocratique. Les pères reprennent ce langage pour exprimer l'état du Fils de Dieu dans ses rapports avec son Père. Étant l'image de Dieu, il possède une dignité souveraine, et il jouit, à l'égard de Dieu, du franc-parler qui est le propre du Fils. Je cite « Ayant déposé tout élément étranger, c'est-à-dire tout péché, et ayant dépouillé la honte de ses fautes, l'âme recouvre la liberté et l'assurance. » Or la liberté est la ressemblance avec ce qui est sans maître et souverain, qui nous avait été donné par Dieu à l'origine, et qu'avait effacé la honte du péché. Grégoire de Nazianze. Et plus loin, il dit « L'âme humaine manifeste son caractère royal et fier, éloignée de toute bassesse, en ce qu'elle est sans maître et autonome, disposant souverainement d'elle-même par ses propres décisions. D'ailleurs, notre âme n'est-elle pas l'image de celui qui règne sur tout ? » Fin de citation. Telle est cette liberté des fils de Dieu que l'enfant de Dieu doit avoir dans ses rapports avec son Père. Grégoire de Nazianze écrit également « Que Moïse ait réussi à réaliser la perfection, quelle preuve plus digne de foi en avons-nous que le fait qu'il soit appelé ami de Dieu ? Car c'est là réellement la perfection de ne pas abandonner la vie pécheresse par crainte des châtiments à la manière des esclaves, mais de ne craindre qu'une chose, la perte de l'amitié divine, et de n'estimer qu'une chose, de devenir ami de Dieu, ce qui est la perfection de la vie. » Fin de citation. Et plus loin, « Le Seigneur prescrit à ceux qui se présentent devant Dieu de devenir des dieux. « Pourquoi, dit-il, te présentes-tu devant Dieu accablé de crainte à la manière d'un esclave et te torturant la conscience ? Pourquoi t'interdis-tu la confiance, parésia, qui est le fruit de la nature libre de l'âme ?» Fin de citation. « Dieu, écrit Scheeben, t'avait élevé au-dessus des êtres sans raison, mais ne convenait-il pas que tu serves du moins les séraphins ? Dieu ne t'a pas imposé cette charge. Ta noble liberté t'a élevé si haut qu'elle ne devait plus reconnaître rien de créé au-dessus d'elle-même. Dieu seul est ton maître, à lui seul tu dois t'attacher de toutes tes forces. Mais lui non plus ne veut pas te regarder comme un serviteur, il veut faire de toi un ami. Il t'a donné son propre esprit, esprit dont l'apôtre dit « Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté ». Notre liberté est vraiment sainte et ineffable quand nous ne sommes plus les serviteurs, mais les amis du Seigneur de toutes choses. Quand nous voyons venir à nous le Seigneur de toutes choses, comme si nous étions ses semblables, comme si nous avions nous-mêmes le droit de nous approcher de lui avec la confiance et la liberté d'un ami. » Fin de citation, Les merveilles de la grâce divine, page 144. L'adoption divine nous élève déjà infiniment au-dessus de la condition de serviteur. Elle nous met dans une condition libre et dans une certaine égalité avec Dieu. L'amitié divine fait cela de façon bien plus complète encore. Que ce soit vraiment là une amitié, c'est ce que notre Seigneur lui-même nous enseigne quand il oppose l'amitié qu'il nous apporte au rapport de maître et de serviteur. Je ne vous appellerai plus des serviteurs, mais des amis. Qu'est-ce qui est plus beau, qu'est-ce qui est plus grand, écrit saint Augustin, que de devenir un ami de Dieu? Cette dignité dépasse les limites de la nature humaine, toutes choses servent le Créateur. Tandis qu'il en est ainsi, le Seigneur élève ses serviteurs qui observent ses commandements à une gloire surnaturelle. Il ne les nomme plus serviteurs, mais ses amis. Il les traite en tout comme ses amis. Fin de citation. Cette amitié s'achève dans cette intimité que seule la grâce permet, qui en est le couronnement et qui est la familiarité avec Dieu. Cette familiarité, c'est la prière chrétienne dès ses débuts, le Notre Père, qu'il exprime tout entière. Mais elle se développe avec la vie de Fils de Dieu pour devenir chez les saints cet entretien continuel, ce face-à-face avec le Père qui est le paradis retrouvé. La grâce, en nous faisant fils de Dieu, c'est-à-dire en nous faisant enfants du Père, établit par là même notre âme dans une relation très spéciale avec le Fils unique de Dieu. D'ailleurs, c'est le propre de tout ce qui concerne la vie de la grâce que toute relation avec une personne divine entraîne nécessairement une relation avec les autres personnes, puisque toutes les œuvres de Dieu sont communes aux trois personnes. Ainsi tout ce que nous avons dit de l'esprit filial se rapporte à la Trinité tout entière, mais convient spécialement au Père. De même, tout ce que nous dirons maintenant de la configuration et de l'union à Dieu est vrai aussi de toute la Trinité, mais cependant se rapporte plus proprement au Fils. Cette relation que la grâce établit entre le Fils de Dieu et nous présente deux aspects principaux. C'est d'abord une configuration. Une imitation. Ceux qu'il a connus par sa préscience, le Père les a prédestinés pour être conformes à l'image de son Fils. Fin de citation. Romains 7, 29. En ce sens, le Fils est le modèle, l'exemplaire, l'archétype selon lequel la grâce nous recrée. Mais cette imitation de Jésus-Christ n'est pas seulement comme une reproduction extérieure. Image du Christ signifie quelque chose de plus profond. C'est une participation à la vie même du Christ, une transformation dans le Christ qui est le cep dont la vie se communique au sarment. Ainsi, toutes choses ne doivent pas être seulement configurées au Christ, mais remplies de la vie du Christ. Et, avec sa vie, c'est le Christ lui-même qui se donne à nos âmes. C'est un lien qui se crée entre lui et nous, un amour personnel qui unit nos âmes à lui dans une union et une intimité incomparables. La vie de la grâce, en nous faisant enfants du Père, fait de nous des frères du Christ, qui doivent lui devenir semblables en toutes choses pour mériter ce nom. Cette ressemblance, le principe nous en est donné au baptême. Mais toute la vie chrétienne a pour unique objet de l'étendre à tout ce que nous sommes. C'est ce que saint Paul appelle « revêtir le Christ ». Mes petits enfants, dit-il encore, que j'engendre à nouveau jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Galates 4, 19. Le Christ naît en nous au baptême. Il faut qu'en chacune de nos âmes il atteigne sa stature. Tout l'exercice de la vie chrétienne consiste ainsi à développer en nous cette ressemblance avec le Christ, à ce que chacune de nos âmes devienne une image qui reproduise les traits de Jésus-Christ. Si le Christ est Fils de Dieu, et si vous avez revêtu le Christ, écrit saint Jean Chrysostome, ayant en vous le Fils et transformés en lui par ressemblance, vous êtes en quelque sorte de son espèce, et sa parenté vis-à-vis du Père est devenue la vôtre. Il n'y a plus ni juif, ni gentil, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Vous n'êtes tous plus qu'un en Jésus-Christ. Fin de citation. La vie de la grâce est donc une configuration au Christ. Mais il ne s'agit pas là seulement d'une imitation extérieure, mais d'une participation à la vie même du Christ. Le Christ ainsi n'est pas seulement le modèle, l'archétype selon lequel nous devons réformer notre âme. Il est aussi la source de laquelle seule la vie de la grâce peut se répandre en nous. C'est l'enseignement de saint Jean et de saint Paul. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est de lui que tout le corps coordonné et uni par les liens des membres, qui se prête un mutuel secours et dont chacun opère selon sa mesure d'activité, grandit et se perfectionne dans la charité. Fin de citation. Éphésiens 4, 14. La vie chrétienne est non seulement une vie comme celle du Christ, mais c'est une vie dans le Christ, selon l'expression chère à saint Paul, « Tous vous êtes un dans le Christ Jésus ». Entre le Christ et les chrétiens, il y a une union vitale. « Puisqu'il est en tous, écrit Grégoire de Nyssa, il reçoit en lui-même tous ceux qui lui sont unis par la communion de son corps. Il les fait tous membres de son propre corps, de telle sorte que la multitude des membres ne soit qu'un corps. Nous ayant ainsi unis à lui et s'étant unis à nous, et étant devenus en tout un avec nous, il fait sien tout ce qui est nôtre. » Fin de citation. De cette union au Christ, l'Eucharistie apparaît d'abord comme le moyen privilégié, je cite, « Par un seul corps, son propre corps, le Fils unique bénit ses propres fidèles, les faisant concorporels avec lui et entre eux. » Fin de citation. Cyrille d'Alexandrie. Mais cette transformation dans le Christ, qui nous fait enfants du Père, est opérée par l'Esprit Saint qui demeure en nous. C'est la doctrine de l'habitation de Dieu en nous. Cette habitation, comme tout ce qui concerne l'action de Dieu dans la sanctification de nos âmes, est l'œuvre de la Sainte Trinité tout entière. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure. Toutefois, les pères de l'Église parlent le plus souvent de l'habitation du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est en effet essentiellement don. Il est le don que le Père fait au Fils. Il est naturel, dès lors, que ce soit sous cet aspect que l'habitation de Dieu en nous soit d'ordinaire exprimée, encore que cette habitation comporte aussi celle des deux autres personnes. Cette doctrine tient une grande place dans la vie des premiers chrétiens. Ainsi, dans le discours, après la scène, voyons-nous notre Seigneur y insister longuement. « Je prierai le Père, et il vous enverra un autre intercesseur, pour qu'il soit avec vous toujours. » L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous et qu'il est en vous. De même chez saint Paul, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes vous-même. » 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'êtes plus à vous-même ? 1 Corinthiens 6,19. Nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu lui-même a dit, « J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » 2 Corinthiens 6,16. Cette doctrine se retrouve fréquemment chez les pères de l'Église. Toutefois, il faut remarquer ici que, dans les premiers siècles, c'est plutôt à la personne du Verbe que va l'attention des chrétiens. Ainsi est-ce au Verbe que Sérapion de Thmuis rapporte la sanctification de l'âme du baptisé, alors que plus tard la liturgie l'attribuera à la vertu sanctifiante de l'Esprit. La liturgie a célébré le Verbe à Pâques avant de faire de la Pentecôte la fête du Saint-Esprit. De même, pour cette doctrine, voyons-nous Origène et Grégoire de Nyssa insister beaucoup sur l'habitation du Verbe dans l'âme. C'est le fondement de la théologie spirituelle de ce dernier. Le Christ, présent dans l'âme, opère la grâce, et c'est à travers la grâce que l'âme prend conscience de sa présence. C'est plus tard, en particulier avec Cyrille d'Alexandrie au Ve siècle, à l'époque où la doctrine du Saint-Esprit se sera constituée, que l'on verra l'accent mis sur la présence du Saint-Esprit. Saint Cyride s'en sert précisément pour prouver la divinité du Saint-Esprit. Je cite « Que l'Esprit soit Dieu et de même nature que le Père et le Fils, nul, s'il est saint d'esprit, ne peut en douter. Si on le nie, qu'on nous dise comment l'homme peut participer à la nature de Dieu par là même qu'il a reçu l'Esprit. Comment nous devenons le temple de Dieu en recevant l'Esprit qui ne serait pas Dieu ?» Fin de citation. Cette présence est ainsi expliquée par Cyrille d'Alexandrie. Je cite « C'est en recevant l'empreinte du Saint-Esprit que nous sommes reformés à l'image de Dieu. Or le Saint-Esprit, ce n'est pas à la manière d'un peintre qu'il peinte en nous la divine essence, comme s'il était autre chose qu'elle. Non, ce n'est pas ainsi qu'il nous rend semblables à Dieu. C'est lui-même qui, étant Dieu et procédant de Dieu, s'applique comme ferait un sceau dans la cire au cœur de ceux qui le reçoivent. C'est par l'union avec lui et par la ressemblance ainsi produite qu'il fait revivre les traits de l'image de Dieu. » Fin de citation. Ce que le père de Régnon commente justement, c'est la présence substantielle et personnelle du Saint-Esprit qui nous sanctifie en formant en nous son empreinte. Sans doute la grâce habituelle n'est pas le Saint-Esprit, pas plus que l'empreinte de la cire n'est le cachet, mais la présence du cachet est nécessaire pour former l'empreinte et la conserver. » Fin de citation. Étude sur la Trinité, chapitre 4, page 484. On peut distinguer deux degrés dans cette présence de Dieu dans l'âme. Il y a une première, venue du Saint-Esprit, radicale, dans l'essence de l'âme dès le baptême, pour produire en elle la grâce sanctifiante, la surélevée, production qui est l'effet d'une présence spéciale et qui cesserait avec cette présence. Cette présence crée dans l'âme la grâce sanctifiante, excite les vertus de foi et de charité. Par ces vertus, alors, l'homme est capable de se retourner vers ce Dieu présent en elle et de s'unir à lui par l'intelligence et l'amour. Il y a là une seconde forme de présence, mais qui est moins présence de Dieu à l'âme que présence de l'âme à Dieu, par laquelle l'âme se tourne vers Dieu et le possède, jouit de sa présence, ce qui constitue à proprement parler la vie intérieure et, dans ses plus hauts degrés, la vie mystique. C'est là ce sentiment de présence dont parle Grégoire de Nyssa, qui ne constitue pas la présence qui en est le résultat et dont il décrit la progression avec toute la gamme des sens spirituels, depuis le parfum, qui est l'indice d'une présence lointaine, jusqu'au toucher de l'âme dans l'obscurité de la foi.